Le 2 avril 2025, le président Donald Trump a proclamé le jour de la libération, annonçant une série de tarifs douaniers qui visent à rééquilibrer les relations commerciales des États-Unis avec le reste du monde. Cette initiative comprend un tarif universel de 10% sur la plupart des importations, avec des taux plus élevés pour certains partenaires commerciaux. On a entendu récemment que c'était, on parlait même de 104% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne et 31% pour la Suisse. La stratégie de Trump est donc ouvertement un retour au protectionnisme pour revitaliser l'économie américaine. Si on prend le temps d'écouter les commentaires des économistes, des politiques, des journalistes surdoués en économie et de la plupart des gens qui n'aiment pas Donald Trump, ce qui fait quand même beaucoup de monde en Europe continentale, et ce qu'il est en train de faire est une immense connerie dont le pays, son pays, ne se remettra jamais alors que l'Europe va lui mettre la pâtée. Ok, bon, on va dire que c'est la vérité et que nous, on est les gentils et que lui, c'est le méchant américain satanique. Mais pour être complètement objectif, je dois vous avouer que je peine à croire qu'il soit complètement idiot au point de complètement se planter. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit avoir quand même un tout petit peu réfléchi à sa stratégie qui ferait qu'à la fin, il doit quand même avoir de quoi s'appuyer pour croire que ça peut marcher. Alors j'ai été fouillé sur internet, j'ai posé des questions, j'ai gratté un peu partout et je me suis dit que je pourrais faire une vidéo qui prendrait un peu le mainstream à contre-pied et qui partirait du principe que peut-être ce que fait Trump pourrait bien finir par fonctionner à la fin. D'où le titre de la vidéo, et si Trump avait raison. Partons donc du début. La stratégie de Trump repose sur l'idée que des décennies de mondialisation ont affaibli l'industrie manufacturière américaine et creusé le déficit commercial. Ça, on est bien d'accord que c'est pas que la faute de la mondialisation, mais on va pas chipoter non plus. En imposant donc ces tarifs, l'objectif est de protéger les industries nationales, encourager la production locale, réduire les dépenses aux importations étrangères, et cette approche vise également à générer des revenus substantiels pour le gouvernement fédéral qui pourraient être utilisés pour financer des réductions d'impôts ou des investissements dans les infrastructures. Et qui sait, peut-être rembourser la dette un jour. Pas sûr que ça fonctionne aussi bien que ça, mais si on en croit le gouvernement américain, on parle donc des milliards, 600 milliards par année et 6000 milliards sur 10 ans. Oui, parce que même chez Trump, 600 x 10, ça fait toujours 6000. Alors maintenant qu'on sait combien cela pourrait rapporter, et j'insiste sur le conditionnel car il n'y a rien de moins sûr que les promesses politiques, on peut essayer d'imaginer pourquoi cette approche pourrait, conditionnelle encore, être bénéfique pour les États-Unis. Le premier point qui vient à l'esprit, c'est la stimulation de la production nationale. En rendant les produits importés plus chers, les consommateurs et les entreprises pourraient se tourner davantage vers des produits fabriqués aux États-Unis, ce qui donc stimulerait l'industrie locale en créant des emplois. Faut pas trop compter là-dessus pour répliquer certains produits européens, bien sûr, mais après tout, qui a vraiment besoin de s'hydrater au Dom Pérignon et d'avoir un sac à main à 15 000 balles de chez Hermès? Bon, tout ça, c'est de la théorie macro, mais la vraie question, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Est-ce qu'on va vraiment voir des industries rouvrir, des usines rouvrir, des fermes se repeupler, des chaînes de montage revivre? Spoiler, peut-être bien, mais c'est pas sûr. Voyons donc qui sont les secteurs qui pourraient en profiter. Tout d'abord, les semi-conducteurs, d'abord, bien sûr, parce que dépendre des puces asiatiques, c'est comme faire confiance à ton ex pour garder ton chien. À un moment, tu vas le regretter. Trump, lui, il veut du Made in Arizona, et Intel, Taiwan Semiconductor et Micron sont déjà sur le coup. Le textile, ensuite, parce qu'avec un t-shirt importé qui coûte aujourd'hui 12 balles au lieu de 5, l'Américain moyen va peut-être découvrir le charme d'un sweat made in Alabama. Ça fait tourner les usines du Sud, et ça fait plaisir aux vieux syndicalistes qui pionçaient dessus depuis 2002. Et enfin, l'agriculture de substitution. Au lieu d'importer des tonnes de soya brésilien ou des fruits chinois, Trump pousse les fermiers américains à produire plus pour les Américains, et si la Chine râle, eh ben elle aura qu'à acheter au prix fort. Ou alors planter ses propres pommes de terre. Bref, il ne s'agit pas juste de protéger, il s'agit de forcer une transformation profonde, et Trump espère que cette douleur initiale donnera naissance à une renaissance industrielle américaine. Oui, car il ne faut pas perdre de vue que si Trump taxe tout ce qui vient de l'extérieur, il ne fait pas juste augmenter les prix, il force l'Amérique à se regarder dans le miroir, à se retrousser les manches et à refaire tourner les usines, les fermes et même les machines à coudre. Le second point que l'on peut mettre sur la table, c'est la réduction du déficit commercial. Les tarifs pourraient dissuader les importations excessives, contribuant ainsi à équilibrer la balance commerciale et à renforcer la position économique des États-Unis sur la scène mondiale. Bon, ça c'est joli en théorie, mais c'est plus compliqué en pratique. Pas sûr que les tarifs se suffisent à eux-mêmes pour régler le problème, mais admettons. Troisième point qui peut apporter joie et bonheur à Donald Trump, le levier dans les négociations commerciales. Ces mesures envoient un message fort aux partenaires commerciaux indiquant que les États-Unis exigent des relations commerciales plus équitables, plus équilibrées, ce qui pourrait donc inciter d'autres nations à revoir leurs propres barrières tarifaires et non tarifaires, aboutissant à des accords plus favorables pour les États-Unis. En français, dans le texte, ça s'appelle « tenir le couteau par le manche ». Et on voit très bien que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Faisons maintenant le point sur ce qu'on reproche à cette stratégie. Depuis les annonces, on a l'impression que Trump est un gros c*** et que c'est le seul à penser que simplement monter les tarifs va suffire. On va donc voir ce qu'on lui reproche du côté des gens qui savent. Certains économistes et analystes craignent que ces tarifs n'entraînent une hausse des prix pour les consommateurs américains et ne déclenchent des représailles de la part des partenaires commerciaux. Il est important de considérer qu'il faut d'abord observer les effets à court terme contre les bénéfices à long terme. Bien que des ajustements soient nécessaires à court terme, les bénéfices potentiels à long terme, tels que la revitalisation de l'industrie manufacturière et la création d'emplois, pourrait largement compenser les inconvénients initiaux. C'est d'ailleurs ce que dit Trump depuis des semaines. D'abord, il va falloir souffrir pour rendre l'Amérique great again, et ensuite, nous récolterons les bénéfices des sacrifices. Oui, il paraît qu'il faut souffrir pour être beau, et de nos jours, on préfère quand même se bourrer de Zempic que faire attention à ce qu'on mange et faire du sport. On n'a pas trop envie de souffrir. Il y a ensuite la capacité d'adaptation de l'économie américaine. L'économie des États-Unis a démontré à maintes reprises sa résilience et sa capacité à s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Les entreprises pourraient innover et trouver de nouvelles opportunités sur le marché intérieur. Sans compter que si l'on se réfère à l'histoire, on peut détester les Américains, mais leur capacité de récupération est tout de même bien supérieure à celle que l'on voit ou qu'on connaît en Europe. Et puis, nous terminerons en parlant à nouveau d'histoire, puisqu'historiquement, les États-Unis ont déjà utilisé des tarifs pour se protéger et pour développer leur économie. Par exemple, au 19e siècle, des tarifs élevés ont contribué à l'industrialisation rapide du pays. Bon, d'accord, je m'incline, c'était au 19e siècle. Et à cette époque, ils n'avaient pas Elon Musk, X et TikTok. Mais quand même, la stratégie des tarifs douaniers a fonctionné à l'époque de Billy the Kid et Lucky Luke. Oui, je sais, Lucky Luke n'est pas américain et c'était pas un vrai personnage. Mais Billy the Kid, oui. En conclusion, la décision du président Trump d'imposer ses tarifs douaniers s'inscrit dans une vision de renforcement de l'économie nationale et de rééquilibrage des relations commerciales internationales. Bien que cette approche comporte des risques et suscite des débats, elle pourrait potentiellement conduire à une économie américaine plus robuste et indépendante, bénéficiant à long terme aux travailleurs et aux industries du pays. Et ça, que ça plaise ou que ça ne plaise pas à tous ceux qui vivent à l'est de Washington, à l'ouest de Los Angeles, ou encore au sud d'El Paso ou au nord des chutes du Niagara. On va partir de l'hypothèse que tout ce que Trump a mis en place va fonctionner, que ses choix étaient les bons et que finalement, il n'est peut-être pas aussi idiot qu'on veut bien nous le faire croire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire une chose. Je ne suis pas en train de vous expliquer que Trump a raison et que je suis pro-Trump. Je le dis depuis des mois, si on m'avait laissé le choix de voter entre Trump, Biden ou Harris, ou une chèvre, j'aurais voté clairement pour la chèvre. Je suis donc là pour vous expliquer ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer et pas pour prendre position pour ou contre Trump. On est juste là pour parler actes et conséquences. Donc, là tout de suite, je vais vous présenter un scénario qui pourrait fonctionner et que si ça fonctionne, les marchés vont remonter comme un bouchon de liège. Et si les USA remontent, le CAC, le DAX et le SMI n'auront pas d'autre solution que de prendre le train en marche, le fameux « free of missing out ». Donc, s'il y a vraiment une stratégie dans la tête de Trump et qu'elle peut fonctionner, aujourd'hui nous sommes de toute évidence dans la phase 1, phase que l'on nommera le choc initial. Choc initial qui devrait durer, selon les experts en politique fiction, d'avril à juin 2025. Et elle se décompose de la manière suivante. Tout d'abord, annonce des tarifs, ça on a vu, Trump impose des tarifs de réciprocité avec l'ensemble de la planète, certains sont plus égaux que les autres dans la liste des tarifs, et on les connaît depuis quelques jours, vaut mieux être européen que cambodgien ou chinois, et même la Suisse a pris cher avec ses 31%, ça va être plus compliqué d'exporter de la petite Arvine dans les rues de Chicago. Ensuite, il y a la réaction des marchés, on la connaît, c'est un bain de sang mondial, panique générale sur la semaine des annonces. Wall Street et le monde merveilleux de la finance décrochent, le Dow Jones perd 8% en une semaine, le Nasdaq 10, le Stoxx plonge de 16, alors que les semi-conducteurs ne seront même pas taxés. Enfin, pour l'instant. Et l'Europe n'est pas mieux. L'Allemagne efface 8%, tout comme la France qui revient au niveau de la dissolution de l'Assemblée nationale, et la Suisse, qui est pourtant bourrée d'actions dites défensives, se prend quasiment 10% dans les dents. Les économistes hurlent à la guerre commerciale mondiale, les médias titrent « Trump joue avec le feu », Trump est ouvertement traité de cinglé, de fou, et certains n'hésitent même pas à le comparer à Hitler. Le printemps 2025 devrait donc être compliqué, et la volatilité et la peur sera très présente sur les marchés. Du côté des réseaux sociaux, on commence à nous dire qu'on va tous mourir, que cette fois c'est pire que les subprimes, et qu'on n'a jamais vécu ça. Tous les experts sont de sortie pour nous peindre le diable sur la muraille, et certains influenceurs financiers n'hésitent pas à montrer la performance hebdomadaire de leur portefeuille en ajoutant « N'hésite pas à liker ou à commenter pour me dire si toi aussi tu souffres ». En juillet, on pourrait, et j'utiliserai toujours le conditionnel en partant du principe que c'est un scénario hypothétique et qui essaie tout simplement de trouver une autre voie que celle qu'on nous vend aujourd'hui, scénario qui est probablement complètement bidon, mais qui vaut la peine d'être exploré juste au cas où. Donc dès le mois de juillet, on pourrait rentrer dans une phase de digestion et de repositionnement, phase qui durerait 4 à 5 mois. Tout d'abord, on partira du principe que les entreprises vont s'adapter. Ford, Apple, Whirlpool, Caterpillar annoncent des plans de relocalisation partielle aux États-Unis ou au Mexique afin de réduire les droits de douane et de s'aligner un peu plus dans ce que l'on appellera le nouveau patriotisme industriel. En gros, une vague d'annonces d'usines qui reviennent aux États-Unis et qui ravivent l'économie des États industriels comme le Midwest américain. Biden avait promis du Made in America, Trump oblige les entreprises à faire du Made in America. Du côté des marchés, ça se stabilise. La Fed, qui a baissé ses taux en juin pour soutenir l'économie, laisse entendre qu'elle ne relèvera plus ses taux et qu'elle est définitivement là pour absorber le choc des prix. Le fait que les prix sont montés brutalement a également réduit la consommation débridée et l'inflation n'est pas aussi forte qu'on aurait pu le craindre. Sans compter que les prix du pétrole ont bien aidé avec le baril qui s'affaiblit et qui contribue à la ramener à 2%. Les marchés rebondissent doucement dans le sillage du soutien de la Fed. À l'automne 2025, le scénario de politique fiction que je vous propose aujourd'hui entre dans sa troisième phase. C'est dans cette troisième phase que les partenaires commerciaux réagissent et entrent en négociation, se rendant compte que l'on ne peut pas se passer de collaborer avec les USA d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en novembre 2025 et afin de finir l'année sur une bonne nouvelle, l'Europe trouve des solutions. Bruxelles entre en discussion pour une baisse réciproque des barrières douanières sur les biens industriels et agricoles et comme souvent, l'Europe ne réfléchit pas, elle réagit. Bruxelles, paniquée de voir l'Eurostock faire du surplace pendant que le S&P repart, lance un grand plan de souveraineté industrielle européenne qui finit par ressembler à un copier-coller un peu fade du modèle américain. La Chine finit par plier et Pékin offre de rouvrir ses marchés à certaines firmes américaines et propose une baisse des droits sur les produits agricoles et pharmaceutiques. De nouveaux accords bilatéraux sont trouvés, Trump signe un deal fair trade avec le Royaume-Uni et l'Inde sans l'aval de l'OMC, le Congrès républicain applaudit et commence à se dire que Trump n'est finalement pas si ingérable que ça. À l'aube de l'année 2026, la stratégie de Trump pourrait faire entrer l'économie américaine dans ce que l'on pourrait appelé un emballement vertueux. Boom de l'emploi manufacturier, les États du Rust Belt enregistrent les plus fortes créations d'emplois depuis les années 80, les salaires bas remontent enfin dans la région, les économies effectuées par la méthode Trump-Musk réduisent les dépenses du gouvernement, Trump baisse les impôts comme promis, et les nouveaux immigrants qui achètent des titres de séjour à 5 millions permettent d'envisager, pour la première fois depuis des décennies, une réduction de la dette. Inflation contenue, les entreprises absorbent une partie des hausses de coûts grâce à des chaînes logistiques raccourcies et la consommation intérieure booste les volumes. L'Américain consomme, mais plus intelligemment qu'avant. Le dollar repart à la hausse, attiré par les investissements étrangers dans une économie perçue comme plus solide et souveraine. Les marchés remontent, on retrouve l'envie de croire que certaines technologies sont révolutionnaires et que finalement, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les Magnificent Seven ne sont pas aussi merdiques que ça. Pendant cette période compliquée, on se rend compte que les dividendes ont été payés et que la croissance, même réduite, est toujours là. En début d'année 2026, la période moyenne des bear markets prend fin. On dit qu'un bear market dure en moyenne 10 mois et se produit tous les 3 à 5 ans. Oui, je sais, certains durent bien plus longtemps, mais c'est pour l'exemple. Dans la foulée du redémarrage boursier de 2026, les marchés du reste du monde, comme d'habitude, emboîte le pas de la hausse américaine et la phase d'avril 2025 est effacée. Les marchés affichent de nouveaux plus hauts historiques et les banques d'affaires révisent leurs objectifs à la hausse. Les 7500 sur le S&P 500 devient la norme et certains plus bullish que les autres parlent déjà d'un S&P 500 à 10 000 pour la fin de la décennie. L'Amérique commence enfin à être great again. Dans la phase 5, le super cycle boursier 2027-2030, les marchés repartent à la hausse pour de bon. Le S&P 500 entre dans un super bull market alimenté par le retour des profits industriels, la reprise des investissements et la baisse des déficits commerciaux. Les technos s'adaptent, Apple, Nvidia, Tesla annoncent des innovations made in America pour contourner les chaînes asiatiques. Nouvelle dynamique mondiale, l'Europe imite les USA avec une politique plus protectionniste, la Chine ressent sa croissance sur la consommation intérieure et les pays émergents jouent la carte des accords bilatéraux. Conclusion, l'effet Trump, acte 2. Les économistes commencent à admettre qu'ils ont peut-être sous-estimé l'effet des incitations douanières sur les chaînes de valeur. Les électeurs applaudissent le protectionnisme ciblé qui n'a pas ruiné le monde. Il a forcé un rééquilibrage brutal, certes, mais salvateur. Les bourses mondiales enregistrent des records, record sur record. Le Nasdaq dépasse les 25 000 points. Le CAC 40 tutoie les 12 000. Le SMI approche les 17 000. Et le SOX passe finalement la barrière mythique des 10 000 points. Et après avoir changé la constitution, Trump brigue un troisième mandat. Moralité ? Et si la guerre commerciale n'était qu'une thérapie de choc, une purge temporaire pour réorganiser un système à bout de souffle? Trump a sans doute allumé le feu le 2 avril 2025, mais qui peut réellement dire qu'il a eu tort et que ce qui est en train de se passer est réellement une mauvaise chose? Je sais que ce genre de réflexion est très controversé actuellement parce que Trump est détesté et haï par une bonne partie de la planète, et je le comprends tout à fait. Cependant, en faisant cet exercice de réflexion, on peut peut-être prendre un peu de recul et voir ce que ça va donner. On ne va pas se mentir, les méthodes de Trump sont brutales, clivantes et elles ne font pas plaisir. Mais il a été élu et il a le pouvoir d'agir. Donc, à ce stade, eh bien, on n'a plus qu'un seul choix. Composer avec, s'adapter et peut-être en profiter si le scénario tourne à l'avantage de l'économie américaine. Mais si tout ça marchait trop bien, est-ce qu'on n'irait pas vers un monde encore plus polarisé, un monde où chaque pays se referme sur lui-même, où la coopération devient suspecte et où l'OMC finit par vendre des t-shirts sur Etsy pour survivre? Et si, à force de vouloir rebâtir la grandeur nationale, on venait de signer tout simplement l'acte de décès de la mondialisation avec tout ce qu'elle avait aussi permis d'apporter de positif. Est-ce qu'on n'a pas ouvert une nouvelle boîte de Pandore? La question est posée. Alors oui, peut-être qu'on vit la plus grande folie économique du siècle, ou peut-être qu'on assiste tout simplement à une purge contrôlée, une sorte de crash-thérapie patriotique. Mais une chose est sûre, on ne pourra pas dire qu'on n'avait pas envisagé ce scénario. Et donc vous, que pensez-vous de cette possibilité? N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et je vous le dis comme toujours, c'est pas une prise de position, c'est une piste de réflexion. Donc si vous avez un avis, une opinion, une brique ou un compliment à lancer, faites-le en commentaire, mais avec classe, pas en mode X un vendredi soir après l'apéro. Alors, likez, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, partagez cette vidéo et surtout allez voir demain l'autre épisode qui s'intitulera « Trump se plante-t-il complètement ?» Parce que oui, le débat ne fait que commencer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans un prochain Morning Bull. On se retrouve dans un prochain Morning Bull, un Swiss Bliss ou une autre question qui fâche. Allez, bye bye.